Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Oran, vue du ciel, est un lit froissé par le poids d'une montagne qui s'attarde à moitié nue. La mer que des pieds ont repoussée vers le bas, des routes qui persistent après des caresses sur un dos de terre. Chaque ville, vue de très haut, est un labyrinthe de féroces étreintes, de noces avec des pierres et des poids. Des reflux, des traces d'humidité, de sueur et de soupirs qui, la nuit, remontent vers les nuages. Je contemple une étreinte si complexe. Kamel Daoud est ce soir notre invité à l'occasion de l'exposition qu'il co-signe avec Raymond Depardon, intitulée « Son œil dans ma main » à l'Institut du Monde Arabe, sous-titré « Algérie 1961-2019 ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Rachid Taha.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sur l'art à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Mais qui est-ce, camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà.
Je sais bien que
tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes.
Commençons par votre père, Kamel.
Oui.
Il était gendarme.
Effectivement, il était gendarme. Il était militaire quasiment toute sa vie. Je pense qu'il a fait. Il était dans l'école des cadets, pardon, à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, et puis il a continué à l'indépendance.
Vous, vous êtes où dans la fratrie ?
L'aîné, heureusement et malheureusement à la fois.
Pourquoi ?
C'est une charge, c'est une attente, c'est un rôle. Je pense que dans la casting familial traditionnel en Méditerranée comme en Algérie, l'aîné est investi d'une sorte de statut de second, de, comment on dit aux États-Unis, de colistier du pouvoir patriarcal quelque part. Et malheureusement, parce que je me suis toujours dérobé à ce rôle.
Vous avez écrit un livre magnifique il n'y a pas si longtemps qui s'intitulait « Zabor ou les psaumes ». Et ce livre est dédié à votre père. Vous écrivez ceci, Kamel Daoud. À mon père Hamidou, qui me légua son alphabet, mort si dignement qu'il vainquit sa mort. Et ça, c'est un des thèmes obsessionnels de votre écriture et de votre recherche. Vaincre sa propre mort.
Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Généralement, la réflexion sur la mort, ou comment échapper à la mort, ou comment accepter la mort, elle est sous monopole du religieux, en règle générale, surtout dans les pays dits musulmans. Il nous est dérobé cette capacité, ce droit de réfléchir sa propre mort en dehors de l'explication religieuse. Et autant que la sexualité, je suis quelqu'un qui essaie de rapatrier, comme une sorte de fortune, de droit de regard personnel sur ces deux pôles de l'existence, la sexualité et la mort. J'ai envie de les réfléchir par moi-même. Je n'ai pas envie qu'on me vole ma mort, ni mon corps.
Dans cette exposition qui vient de commencer à l'Institut du Monde Arabe et que vous co-signez avec Raymond Depardon qui en a fait les merveilleuses photographies, il y a ce sentiment que l'on ressent à lire ces textes qui accompagnent les photos de Raymond Depardon, que finalement, vous, Kamel Daoud, vous n'êtes pas très vivant, ou en tout cas, peut-être, vous vous émerveillez d'être encore vivant. Ça vient d'où, ce sentiment ?
Ça vient du fait de la dépossession, encore une fois. La décolonisation, pardon, qui est une séquence de l'histoire, elle a aussi une charge symbolique sur le corps de chacun, sur sa perception, sur la vie. Je vis dans un pays qui a le culte des morts, qui a le culte du passé, des martyrs, des sacrifiés, des aînés, des ancêtres. Et donc ça laisse peu de place pour le vivant que je suis. Et donc la vie en elle-même, elle devient une sorte de pari, de colère, de résistance au déclassement, au refoulement, comme si j'étais refoulé en dehors de ce récit national qui mange tout, ce roman national qui laisse très peu de place pour des gens comme moi, parce que je n'ai pas fait la guerre, parce que je n'ai pas vaincu le français, parce que je ne suis pas mort. Donc autant de choses qui font que très tôt j'ai pris le parti pris du corps et d'essayer un petit peu de vivre. Et vivre, c'est s'émerveiller de sa propre vie. Si on est capable de s'émerveiller de sa propre vie, d'en accepter l'énigme, la gratuité, la banalité, l'absurde, le côté surréaliste, le côté Paris, comme une pièce de monnaie jetée dans les airs et qui dure un siècle, 80 ans, 50, ça dépend de la durée de vie chacun. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à essayer de réfléchir la vie autrement que comme une commémoration perpétuelle, comme une sorte d'hommage.
Comme si vous étiez légataire d'un passé qui ne vous appartient pas forcément.
Oui, et auquel je devais appartenir absolument aussi. C'est très complexe à expliquer aux autres, parce qu'on a l'impression de raconter le désert des Tartares à un amateur de manga au Japon maintenant. Il y a quelque chose qui échappe à beaucoup de gens en Algérie.
Et comme si vous n'étiez pas attendu, quoi.
Au contraire, comme si j'étais indésirable.
Comme si vous apparteniez à une génération dont on n'aurait pas besoin dans votre propre pays.
Nous sommes les enfants indésirables, parce que nous sommes nés trop tard. Et c'est un sentiment douloureux pour une vie comme pour une génération. Je suis né une dizaine d'années après, et j'ai toujours eu ce sentiment qu'on me reprochait d'être né trop tard. Naître trop tard, c'est trahir. C'est assez fascinant. Et puis ça s'accompagne d'un verdict de dépossession. Le pays appartient à ceux qui l'ont libéré, ou aux morts. Et donc je suis qui ? Le pays ne m'appartient pas parce que je ne suis pas né pendant la guerre, je ne l'ai pas libéré. Je suis né trop tard, donc quelque part j'ai trahi une sorte de... Je suis né après le générique. Et en même temps, il y a un éloge du corps mort, du corps sacrifié, du corps défunt, qui fait que mon propre corps se retrouve vacant, en plus. Quelque part, on se retrouve collatéraux de son propre corps. On est juste là, on vit, mais c'est comme si on demandait des excuses, ou on devait demander des excuses perpétuellement. C'est ce qui me fascine le plus, c'est la dépossession. L'enfant du décolonisé, c'est un enfant dépossédé.
Des excuses d'être vivant, au fond. C'est ce que vous demandent les autres générations.
Souvent pas verbalement, mais on sent cette sorte...
C'est un sentiment philosophique que vous avez éprouvé depuis l'adolescence, Kamel ?
Plus que philosophique. Je pense que c'est une certitude physique. C'est un sentiment culpabilisant qui est physique, qui est là.
Si je répète, c'est pas de la blague.
Non, du tout. Si vous avez des chaussures, c'est parce que des gens sont morts pour vous. Si vous avez de l'électricité et une télévision, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour vous. Si vous avez une très belle veste, si vous allez à l'école, c'est parce que nous sommes sacrifiés pour vous. Et on est toujours dans ça.
Dans ce livre, Zabor, qui à mon avis a des échos autobiographiques par moments, vous écrivez ceci, Kamel. « Que se passe-t-il quand je dors ? Dieu veille peut-être en arbitre dans ce jeu. C'est le temps mort de la mort, en quelque sorte. »
Ce n'est pas
on
moi...
On y est là, hein ?
Bien sûr, mais en même temps, rappeler la proximité de la mort... du sommeil, de l'orgasme. C'est quelque chose de très vieux. C'est une vieille métaphore. C'est un vieux lien qui existe entre le sommeil et la mort. Dormir, c'est apprendre à mourir aussi.
Dormir, c'est peut-être apprendre à mourir, mais pour pouvoir vivre, il faut peut-être savoir l'apprendre et savoir ce que cela signifie. À quel moment dans votre existence, est-ce que c'est dans la haute enfance ou plutôt à l'éveil de l'adolescence que vous avez ressenti, parce que vous parlez un peu comme Albert Camus. Évidemment, on va venir à Albert Camus et à votre contre-enquête qui vous a fait connaître d'un très large public. Mais quand est-ce que ce sentiment d'exister vous est tombé dessus ? Est-ce que c'est au moment où vous avez commencé à lire de la littérature ?
Je pense que c'est un cumul. C'est comme creuser un trou dans une cellule. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On creuse, on essaie de trouver un petit peu... on creuse le tunnel de l'évasion, quelque part. Et les livres sont vos instruments. Vous lisez, vous creusez, vous lisez, vous creusez. Et un jour, le mur tombe. Mais moi, je me rappelle particulièrement du jour où le mur est tombé.
Vraiment. Ah oui ?
Très, très, très nettement. Je pense que j'avais peut-être 20 ans. Et c'était une expérience marquante. Et je pense que dans la vie de chacun, on a ce genre d'expériences qui sont intimes, qui peuvent paraître banales et futiles, mais qui sont décisives. Je sortais d'un endroit, il faisait gris, le contraire de la Méditerranée, dans le ciel. À 20 ans, j'ai cherché un travail, j'étais au milieu de mon cursus d'étudiant. Et d'un coup, je ne sais pas comment, par quel raisonnement, qui était peut-être en sourdine en moi depuis des années, je me suis dit, mais finalement, des anges, des dieux, des diables, des esprits, des fantômes, des revenants, des ancêtres, je suis le seul à travailler et je serai le seul à mourir et je suis le seul à posséder un corps. Et à partir de cela, je me suis dit, la hiérarchie doit s'inverser. Le plus important, c'est moi, c'est-à-dire mon corps, et puis tout le reste est accessoire. Si autant d'instances entre divinités, entre invisibles, en veulent à mon corps, c'est parce qu'ils ne l'ont pas, parce que je possède ce qu'ils n'ont jamais eu. Ça paraît absurde, mais je vous jure que c'était un virage pour moi. La découverte du corps comme fortune essentielle, brève, comme adossement, comme une sorte de contradiction, comme une sorte de richesse, comme un objet de jalousie de la part des divinités qui sont forcées de passer par mon corps pour croquer une pomme, comme je le dis souvent. Tout cela fait que j'ai renversé l'ordre dans ma tête. Je suis le plus important parce que je suis le seul à mourir.
On parlait de votre fratrie tout à l'heure, Kamel Daoud. Vous êtes l'aîné et vous êtes le seul qui avait pu faire des études. Pourquoi ?
Non, je ne suis pas le seul à avoir fait des études. Mon père s'est battu pour que ses filles fassent des études aussi. Et je suis le premier parce que je suis l'aîné. Mais disons, dans l'environnement de toute la tribu, je suis le premier à avoir eu son bac, je suis le premier à être allé à l'université, je suis le premier à s'être intéressé à la littérature, etc. Mais je ne suis pas le seul. La bataille de mon père, je me rappelle, et pour ça, il faut rendre un petit peu les choses à l'échelle de l'époque. Il s'est battu pour que nous soyons scolarisés et surtout ses filles soient scolarisées.
Aujourd'hui, ce combat continue dans l'Algérie où vous vivez ?
Et encore plus aujourd'hui, parce que les droits régressent, le statut de la femme change, les libertés régressent, la propriété du corps régresse, la dépossession du corps par le religieux cette fois, plutôt que par les martyrs et le décolonial, progresse. Je suis désolé, mais ce qu'on croyait étant acquis, ne l'est pas, y compris en France d'ailleurs, y compris dans le reste du monde. L'histoire, ce n'est pas, elle n'est pas dans le cycle positiviste du pire vers le mieux. C'est un cercle qui tournoie, c'est une spirale. L'Algérie de maintenant est obligée de redéfinir des choses et on est obligé de se battre pour des choses qu'on croyait acquises depuis longtemps.
Je vous propose d'écouter la voix de Kateb Yassine. Il va parler de la difficulté de mettre en lumière la réalité d'un peuple à travers une langue étrangère à la sienne. Je ne sais pas si vous vous définissez comme écrivain algérien. J'ai vu que vous aviez la double nationalité, Kamel.
Et c'est magnifique. J'ai la double culture, la double nationalité et la chance de voir le réel à partir de deux points différents.
Et ça, c'est une chance. Donc je vous propose d'écouter la voix de Kateb Yassine. C'est une archive INA du 23 avril 1965 et c'était au micro de Jean Paget.
Comment peut-on, dans une langue, faire passer un tout autre peuple dans le génie de cette langue? J'espère que j'y suis arrivé à certains moments. Certains critiques ont dit qu'ils ont reconnu dans Najma le symbole de l'Algérie. Il est évident que ce n'était pas voulu chez moi. Mais je crois que c'était tout simplement le fait que l'Algérie éprouvait le besoin de se découvrir encore plus dans la langue française, puisqu'il s'agissait de la langue d'un peuple qui nous était opposé dans la situation historique. Et c'est là que s'exprimer dans sa langue, lui communiquer l'âme, le génie du peuple algérien dans sa propre langue, peut-être la façon la plus réelle, au fond, de participer à la libération de l'Algérie, dans la conscience, déjà, des Français.
Êtes-vous d'accord avec les propos que tenait Kateb Yassine? Je sais que vous êtes un amoureux de Kateb Yassine et que la littérature algérienne est importante pour vous. Je ne sais pas, vous pourriez être l'arrière-petit-fils de Kateb Yassine, Kamel Daoud.
Pourquoi pas? La littérature vous permet de vous offrir les ancêtres que vous voulez au lieu des ancêtres que vous subissez. C'est quand même un avantage. On peut se réclamer d'André Gide et de Kateb Yassine. Le rapport à la langue, il est différent. Kateb Yassine, c'est l'enfant d'une époque. C'est l'enfant d'une histoire qui n'est pas la mienne. La mienne, c'est celle d'une sorte de renversement. Pour lui, le français est la langue de l'oppresseur. Alors que pour moi, le français, c'est la langue de l'intimité. C'est la langue de la rêverie. C'est la langue de la sexualité. Le français, je ne l'ai pas subi, je l'ai désiré. C'est différent. Je suis né après. Je ne pense pas et je ne crois pas au génie des peuples. Je crois au génie des individus, personnellement, pour reprendre un petit peu la phrase de Kateb Yassine. Et je crois que le français n'est pas exogène à l'Algérie. Il fait partie de notre histoire, de notre matrimoine et de notre patrimoine. Il fait partie de ce qui nous enrichit, pas de ce qui nous appauvrit, ni de ce qui nous exclut. L'Algérie reste le pays francophone le plus important après la France. Donc, quoi qu'on dise, cette langue, elle est là. Donc, moi, je ne crois pas à une sorte d'algérianisme, d'algérianité de l'écriture. On écrit pour ne pas être uniquement soi-même. On écrit pour fuser vers l'autre, pour transcender, tout en se racontant. Ce n'est pas moi qui le dis, mais parce que tout le monde, la littérature, c'est une sorte de sublimation de ce qui est particulier, sans y être enfermé. On raconte l'histoire d'un pêcheur à Dakar et on se retrouve dedans, on se retrouve épris, on se retrouve pris par ça. Donc, disons, le rapport idéologique au français, je ne l'ai pas, peut-être par manque de conscience politique, mais j'ai un rapport de désir, amoureux, sensuel. Pour moi, c'est, j'utilise une métaphore exagérée, pour moi, Descartes est une femme. C'est dans le sens où la langue, pour moi, elle est très féminine, elle est très désirable. Je suis né plus tard, ce n'est pas ma faute aussi, de ne pas avoir ni fait, ni subi la guerre.
Pour en revenir à ce livre important, Zabor, voici ce que vous écrivez à propos du personnage principal. J'avais certes quitté l'école coranique, mais ma maîtrise du français m'avait restitué une aura, moins brillante, mais passible de respect. Le français était une langue de la mort, pour ceux qui se souvenaient de la guerre, mais pas une langue morte.
Exactement. Surtout pour des gens qui comme Kateb et comme dans d'autres, je veux dire. C'est une langue qui, à l'époque, incarnait une domination. Et donc une révolte, donc une colère, donc un rejet. Je comprends, mais ce n'est pas ma perception, ce n'est pas ma vie. C'est une langue.
Votre vie, c'est la double langue.
C'est-à-dire.
Ou la triple langue.
Plutôt la triple langue. Le français, l'algérien, l'arabe. Disons que
hors langue, ou la multitude des langues, vous vous revendiquez comme un écrivain qui peut écrire dans de nombreuses langues.
Je crois, je ne l'ai pas encore réussi, mais je crois que la plus belle histoire que l'on peut imaginer, c'est celle qui fait oublier dans quelle langue elle est racontée. C'est à partir de ce moment-là que, qu'on peut raconter les choses. Mais une langue n'enferme pas une culture, au contraire, elle lui donne de l'extension. J'étais à Tunis dernièrement, il y a quelques mois, pour un congrès des écrivains de langue française. Et je me rappelle ce que j'avais dit dans une conférence qui a surpris peut-être certains, mais que d'autres ont compris. Je disais que lire Balzac en arabe fait partie de la francophonie. Donc, je crois qu'une langue ne suffit pas à se définir. Il lui faut de la culture, de l'histoire, de l'extension, des territoires, des adoptions et des adaptations.
Je dirais qu'en vous, Kamel Daoud, il y a plusieurs langues. J'entends de disciplines de langues. Vous abordez aussi bien la poésie, le roman, l'essai, mais aussi, et je trouve que c'est particulièrement flagrant dans ces textes que vous avez écrits dans ce compagnonnage avec Raymond Depardon concernant l'histoire de votre propre pays depuis 1961, la philosophie.
Oui, la philosophie, je l'ai toujours perçue comme une sorte de voie de réflexion nécessaire. Parce qu'encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début, les grands sujets de la philosophie, la mort, la sexualité, l'altérité, tout cela nous a été dérobé par le religieux. Qui pense le ciel chez nous ? Ce sont les religieux. Qui pense la mort ? Les religieux. Qui intercède et s'interpose dans cette intime altérité qu'est l'amour ? Les religieux, les dogmes, le prêtre, l'imam, la mosquée, la surveillance sociale. Qui réfléchit mon corps ? Qui réfléchit mon hygiène de corps ? Le religieux. Et tout cela, j'ai envie de le réfléchir par moi-même. Et la philosophie, justement, c'est un acte de réappropriation des topics de réflexion que le discours religieux, que ce soit musulman ou autre, s'est accaparé. Donc moi j'ai envie de réfléchir ma mort tout seul, puisqu'elle me concerne. Ma mort c'est une affaire privée. Et autant que ma sexualité.
Mais arrêtez de parler de la mort, Kamel.
Pourquoi ? Elle nous concerne tous, c'est ce qui éclaire
oui,
la vie.
Mais enfin...
Non, je pense que c'est un versant qui éclaire la vie.
Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, même si vous avez l'impression que votre propre appartenance algérienne vous interdit de facto de vivre la puissance de cet appel de l'avenir, peut-être.
Si vous le dites comme ça, je vous laisse parler, parce que c'est agréable à entendre.
Mais c'est pas vrai.
Non. La mort, c'est comme le soleil, ça éclaire. Vraiment, ça éclaire beaucoup de choses, ça vous ramène à l'essentiel, ça vous réveille de la somnolence, du confort, ça vous montre que les choses ont un prix et un temps et un moment. Et donc, ça donne... La mort donne des tarifs aux choses. Finalement, c'est comme si on étiquette des objets de valeur ou pas.
Passez-vous beaucoup de temps dans les cimetières, comme votre héros de Zabor ?
Non, je n'aime pas et je ne crois pas aux cimetières. Je ne crois pas à la sépulture. Je ne crois pas à ce rite de la sépulture. Je pense qu'on vit, et le meilleur service qu'on puisse rendre à l'humanité, c'est une incinération toute propre, et répandre ses cendres. Occuper de l'espace, je crois que non, je n'aime pas beaucoup les cimetières. Je n'y crois pas.
Mais vous aimez bien les traces.
Les traces, par contre, c'est autre chose. Écrire, c'est autre chose. Sculpter, c'est autre chose. Peindre, c'est autre chose. Enfanter, c'est autre chose. Donner un enfant au monde, c'est autre chose. Mais une tombe, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est des pierres auxquelles on s'accroche.
On vous a connu et reconnu avec un de vos livres, Kamel Daoud, qui s'appelait « Contre-enquête » et qui était une vision extrêmement brillante, acide, caustique, sur l'œuvre la plus célèbre d'Albert Camus, Je veux parler de l'étranger. Je vous propose d'écouter la voix d'Albert Camus à propos de l'engagement des écrivains algériens dans la cause du pays. C'est une archivina du 13 novembre 1958.
Je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que personnellement, au long d'une vie où en somme les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne, l'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme étant la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité.
Nous venons d'entendre cette archive assez exceptionnelle. Elle est datée du 13 novembre 1958. Vous, à l'intérieur de cette exposition, vous êtes le compagnero de Raymond Depardon. Et cette enquête commence quand Raymond Depardon, très jeune d'ailleurs, est allé suivre les accords d'Évian en 1961, donc 58-61. Au moment où Albert Camus s'exprime, il ne savait pas à quel point la tragédie allait commencer et comment elle va continuer. Mais deux questions d'abord. Albert Camus vient de dire en 58 qu'il était algérien. Albert Camus vient de dire que c'est au nom de son algérianité qu'il a à la fois découvert du bonheur et du malheur. Est-ce que vous diriez les mêmes choses aujourd'hui, en 2022, Kamel Daoud ?
Probablement, mais je ne pense pas que ce soit une...
Comme si c'était un couple indissoluble, le bonheur, le malheur. Algérianité égale bonheur, mais malheur.
Tout à fait. Un pays de soleil et d'ombre, c'est la Méditerranée. Un pays de... Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être le malheur qui donne sa valeur au bonheur. On le sait tous. Et inversement, c'est l'absence de bonheur qui nous fait craindre que le malheur soit éternel. Je pense que c'est propre à la vie d'un homme, selon les circonstances. Cela peut être des circonstances personnelles très intimes. Ça peut être la tragédie d'un pays, une tragédie entre deux communautés. On apprend la vie comme on peut et comme on la subit aussi.
Deuxième question, c'est le corps. Depuis le début de cette émission, vous parlez du corps. Or, dans Contre-enquête, eh bien justement, c'est le corps qui est au centre de votre enquête philosophico-politique et littéraire de l'étranger, parce que je vous avoue, mais je suis pas la seule. Des centaines et des centaines de milliers de lecteurs ont lu Camus autrement, et notamment l'étranger, grâce à votre lecture. Comment avez-vous fait la découverte de ce corps et de l'atteinte mortelle de ce corps ?
Je ne sais pas si on peut s'expliquer une idée. On peut peut-être creuser toute une vie, parce que chaque 5 ans, on change de version et d'alibi, quelque part, pour rester sur l'enquête et sur le terme de l'enquête. Mais c'est vrai que Meurs ou contre-enquête, c'est une recherche du corps. C'est la recherche du corps pour les deux, c'est-à-dire le corps et le cadavre du mort, mais même du frère cadet qui a été survivant, qui a été dépossédé de son corps, lui aussi, parce que on lui reproche d'être vivant dans Meursault. Sa mère lui reproche d'être encore vivant, et elle lui demande de prendre soin de son corps comme si c'était, il le dit, l'habit de quelqu'un d'autre, une veste que je porte et que je dois rendre, comme si le corps était loué. Je pense que c'est quelque chose qui m'obsédait depuis toujours, et qui à un moment se déclinait sous la forme d'une rencontre, d'une relecture, peut-être d'une façon d'interroger. J'ai eu le fantasme d'écrire ce roman sous forme d'enquête, mais une enquête assez déstabilisante, parce qu'on a l'aveu, alors que l'aveu c'est vers la fin d'un roman policier, on a l'aveu, on a l'alibi, on a le motif du meurtre, mais le problème, on n'a pas le cadavre. Et c'est à partir de là que j'ai essayé de construire une sorte de fable amoureuse, d'interrogation amoureuse de l'étranger de Camus. Mais beaucoup m'interrogent sur l'étranger de Camus, sur Meursault, alors qu'au fond, l'hommage le plus secret, le plus discret, il est rendu à La Chute, surtout, qui pour moi est un roman magnifique que l'on peut lire, relire, à voix haute, à voix basse, écouter tout le temps. C'est le roman de la culpabilité, surtout.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Kamel Daoud pour notre plus grand bonheur, les Pink Floyd.
From a veil, do you think you can tell?
Alors, pourquoi les Pink Floyd?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, comme tout un chacun, j'ai eu une période de Pink Floyd. Je veux dire, à un moment, on les écoute et s'y lie à des souvenirs, à des enthousiasmes, à des idéaux.
À de l'amour, j'espère.
À de l'amour et de la naïveté. J'allais y venir en fin de liste. En même temps, avec l'âge, on comprend que ce groupe était aussi mythique dans le sens où il n'était pas. Il chantait une sorte de tragédie ambulante, permanente, au sein du groupe même, fondée sur une tragédie, sur une absence, sur quelqu'un qui a disparu. Donc je trouve ça extraordinaire. Je pense que c'est un groupe que l'on peut écouter chaque 10 ans, comme on peut lire, relire Dostoïevski ou Faulkner, et retrouver cette sorte de construction permanente. Chaque 10 ans, on peut écouter les Floyd, et chaque 10 ans, on peut relire Ton disque j'agonise de Faulkner. Donc c'est un groupe qui reste fascinant pour moi, qui ne s'épuise pas avec le temps.
Et tous les ans, on peut rentrer dans un musée et admirer les œuvres de Picasso, quand même?
Probablement, et encore. Et c'est ce qui sauve plus ou moins le goût. Et ce qui nous sauve du désastre actuel, de la grossièreté, de la démission, des réseaux sociaux. Je pense que c'est la persistance et la collection du chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre sont actuellement un acte de thérapie de groupe et de nation. Plus on en possède, et plus on préserve l'idée que l'on se fait du beau, du génial, de l'inaugural, du magnifique. Imaginez un monde sans chef-d'œuvre. C'est un monde de réseaux sociaux.
Nous y sommes dans la critique des réseaux sociaux, mais nous allons d'abord écouter Pablo Picasso, parce que Kamel, vous avez de nombreuses cordes à votre arc littéraire, et notamment celui de savoir regarder Picasso. Nous allons pour le moment l'écouter. C'est une archivina de 1955.
Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile devrait vous survivre. Quelle serait cette toile? Quelle serait cette période?
Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons. Et c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est... Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers.
Dans cette collection magnifique au demeurant, qui s'intitule « Ma nuit au musée », vous avez accepté la proposition suivante, de vous laisser enfermer dans le musée Picasso à Paris. Et là, aux heures du petit matin, vous écrivez ceci, Kamel Daoud. « Le baiser est la preuve que tout amour est cannibalisme. » Vous parlez des œuvres de Picasso de 1932. « La salive y est le premier sang. On y adjoint le verbe « embrasser » pour en atténuer la morsure. Alors « embrasser » devient « comprendre, mesurer avec amplitude d'un seul coup d'œil, étreindre, contenir, appréhender. » L'érotisme, c'est jouer avec la mort. Encore là, la mort. « La désirer, la parer, tous le disent depuis des siècles. » Et ce que vous avez vu dans cette nuit au musée, c'est la possibilité pour l'artiste de génie qui était Picasso de contrecarrer la mort, en quelque sorte, de la faire attendre, de la faire patienter.
Pour le moment, l'art, j'ai l'impression que c'est la seule solution qu'on a trouvée face à la mort. Quand je dis l'art, ça va des pyramides jusqu'à la danse. Mais qu'est-ce que nous avons pu trouver d'autre, mis à part la métaphore? Vous lisez un poète grec ou une métaphore de Marquez qui est mort ou pas. Vous lisez une œuvre qui remonte au XVIIIe siècle, Hugo par exemple, et d'un coup vous êtes dans l'absolue coïncidence avec un corps qui n'existe plus. Mais qu'avons-nous trouvé d'autre pour vaincre la mort? Rien. Pour le moment, on n'a rien d'autre. On n'a que les pyramides, on n'a que des œuvres, on n'a que des récits, on n'a que des mythes, on n'a que des gens qui ont vécu, qui ont raconté, qui ont écrit. Mis à part ça, je ne vois pas d'autre solution. Bon, bien sûr, il y a d'autres solutions qu'on nous propose. L'éternité, c'est-à-dire la religion. Je m'en méfie, je préfère les livres.
Vous continuez à être journaliste, Kamel Daoud, dans votre propre pays, et vous écrivez aussi des éditoriaux pour la presse internationale, ainsi que pour la presse française. Et l'un de vos éditoriaux parle justement de l'atteinte à la beauté, qui est une arme centrale et extrêmement importante dans la lutte que mènent les djihadistes. Pourquoi ? L'atteinte à la beauté serait notre lien à l'humain à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il faudrait l'éradiquer, cette beauté-là ?
Je crois que tous les radicaux se ressemblent en ça, qu'ils ont le culte de la laideur, du nivellement, de l'effacement. partout, que ce soit les nazis, que ce soit les djihadistes de Daesh, que ce soit d'autres, ils ont un problème avec la beauté. Je lisais quelque part dans un roman écrit par un hindou, qui reprend, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, un vers de Mohammed Iqbal, le poète pakistanais, qui disait que si tu arrives à voir la beauté dans le monde, tu es un homme libre. Au début, ça me paraissait d'une banalité un peu, enfin un jeu de mots. Mais au fond, c'est vrai, si on arrive à voir la beauté du monde, on devient libre. On se contente de cet extraordinaire don qui nous est fait par quelqu'un qui n'existe pas ou qui existe très très lointain. Donc, c'est vrai que percevoir la beauté, ça nous libère. Mais en même temps, exercer la beauté, la créer, c'est un acte de liberté. C'est un acte de dissidence par rapport au poids du monde. C'est une façon d'interroger le monde, de s'en faire propriétaire aussi, que d'œuvrer, que de construire. Et là, on fait face à des gens qui vous disent non, vous ne pouvez pas être libre. Et pour qu'on puisse mettre fin à votre liberté, on va effacer les traces de cette liberté. Et les traces de la liberté, c'est l'art, c'est la beauté. Je suis convaincu que la beauté, pour les populistes et les radicaux, est un problème personnel. Là où ils vont, là où ils veulent nous entraîner, c'est un endroit laid, sans beauté et sans liberté. Et on le sait tous, et on le sait depuis très longtemps, et on l'oublie à chaque fois. Mais c'est ainsi. Le radical a une âme morte. Il rêve d'effacer, il rêve de niveler, il rêve de vide. Parce qu'il porte en lui le vide, donc il voudrait que le monde entier soit son reflet. Vide, rien.
Cette beauté, Kamel Daoud, vous la trouvez tous les jours, manifestement, dans votre propre pays, à travers les mots qui accompagnent les magnifiques photos de Raymond Depardon. Vous la trouvez dans les visages, dans les expressions. Vous la trouvez dans l'abandon d'un jeune couple face à la mer, sous un palmier. Vous la trouvez dans la beauté de deux vieux hommes qui sont en train de jouer aux cartes sur les marches au bout d'une rue. Vous la trouvez en regardant le ciel, en regardant les ombres, le jeu des ombres et des lumières. Mais cette beauté-là, il faut déjà savoir la regarder.
C'est une éducation du regard. Vous savez,
Il faut être sensible à la beauté pour pouvoir prendre, l'attraper.
Et se libérer pour pouvoir la regarder. Être libre. À partir de ce moment-là, vous pouvez la trouver. C'est quelque chose de très difficile à faire aussi. Quand vous parlez d'Algérie en France ou ailleurs, ou quand vous-même vous parlez de l'Algérie en Algérie, l'Algérie, c'est un objet politique. C'est un objet de l'histoire. Mais on ne le conçoit pas aussi comme un lieu de possible beauté, malgré les misères, malgré les désastres, malgré les échecs. Et je me rappelle quand j'ai commencé à écrire ces textes, en me promenant dans l'univers magnifique de Raymond Depardon, je me suis dit, on va me reprocher, et on l'a fait, j'ai vu ça sur les réseaux, etc. On va me reprocher de ne pas refaire la guerre à la France, de ne pas parler de guerre, de décolonial, de colonisation, de ne pas parler de soulèvement, de dictature, etc. Comme si l'Algérie n'était pas un corps, mais uniquement un objet politique, un objet de l'histoire, un objet de la confrontation. J'ai voulu écrire sur la beauté, et croyez-moi que c'est quelque chose de difficile. Pourquoi ? Parce que déjà, par rapport à l'orthodoxie, aux orthodoxies ambiantes, c'est un acte de trahison. Regarder la beauté, là où beaucoup ne veulent pas la voir, c'est un acte de trahison. Et je revendique cette trahison. Je veux trahir pour pouvoir regarder ce qui est beau et pouvoir l'écrire. C'est pour ça que ces photos m'ont inspiré, elles m'ont libéré. J'ai voulu le regarder comme un être vivant, comme un être sensible, comme si je l'ai palpé, comme si je l'ai touché, plutôt que comme si je l'ai pensé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai privilégié la métaphore à la réflexion.
Je vous propose d'écouter la voix de Raymond Depardon. C'était dans l'heure bleue, c'était il y a moins de 2 ans. Il répondait à la question « Quelle différence faites-vous entre regarder et voir ?»
Par exemple, dans la Constitution américaine, l'article 2 veut que les institutions soient transparentes. Donc voilà, donc c'est voir. Il faut qu'on puisse voir. Ce qui se passe en tous les cas, l'espace public, les services publics, enfin tout ce qui nous concerne de notre société. Donc regardez, bon, moi, je sais pas si je regarde bien, je sais pas, parce que regarder, j'ai un regard comme tout le monde, j'ai plutôt un regard un peu... moi, j'appartiens à une agence Magnum. On voit que parce qu'on a analysé un peu, il y a des gens qui regardent plus loin que d'autres. Il y en a qui regardent plus près. Par exemple, il y a des photographes qui regardent très près. Il y a des photographes qui regardent loin. Donc, on a un regard qui se porte un peu comme ça, automatique, mécanique. Mais Je sais que je pourrais pas vivre si je ne faisais pas des images. C'est sûr que c'est mon existence. C'est vrai qu'aussi, voilà, j'ai toujours prôné de faire des photos dans des temps faibles, des temps un peu comme ça, des photos à Paris ou dans la vie quotidienne qu'on peut, dans les transports publics, parce que c'est vrai que c'est important. Moi, je sais que il n'y a pas que la grande actualité, il n'y a pas que les grands les personnalités, que la guerre ou les événements. Il y a aussi de faire des photos tous les jours. Je pense que ça m'a sauvé un peu parce que on le voit bien d'ailleurs quand à 20 ans je faisais déjà des photos avec des temps faibles parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire.
Alors, les temps faibles sont peut-être les temps les plus importants, en tout cas dans cette magnifique exposition que vous accompagnez de vos propres mots, Kamel Daoud. Il y a cet éloge du quotidien, cet éloge du fragile, cet éloge de ce qu'on appelle entre guillemets les instants volés, mais qui sont des instants justement qui sont restitués aux spectatrices et aux spectateurs. Parmi toutes ces photographies, il y en a une qui montre une façade d'immeuble haussmannienne, puisque c'était les Français qui avaient construit une grande partie d'Alger, mais aussi d'Oran, et vous écrivez ceci. Les façades des vieux immeubles sont des papillons épinglés. Ils font vieillir la pierre enserrée sous la peinture. Je suis né dans un village où les maisons sont horizontales. Alors la ville reste pour moi frappée de hâte inexplicable où l'entassement punit une trahison de la terre. Je suis injuste. Injuste. Pourquoi ?
Parce que la ville a ses raisons, la ville a ses histoires, la ville a ses vies qui se justifient, mais qui sont sévèrement jugées par le villageois que je suis. Vous savez, en Algérie,
vous êtes resté villageois.
Profondément, nous avons un mythe de l'authenticité. On est un Algérien authentique lorsqu'on est un rural, hors de la ville. On n'est pas un urbain. Vous rencontrez quelqu'un en ville et au bout d'un quart d'heure de discussion, ils se sont obligés de se ramener à des origines hors de la ville pour vous dire que il a les bonnes valeurs, il est authentique, il est vrai. Comme si la ville était, l'urbain était le lieu de la fausseté. Du faux à la fois. Donc je dis, je suis injuste vis-à-vis de la ville parce que on a l'impression que c'est une trahison de la terre, mais pas uniquement en Algérie, un peu partout. Mais en même temps, la ville a ses raisons, la ville a ses fascinations. Et Raymond, qui justement a ceci de génial, que malgré les contraintes de son métier, celle de capter l'actualité, je ne sais pas comment il fait, mais il réussit toujours à capter autre chose que l'actualité. C'est-à-dire l'actualité elle-même, mais avec un glissement, avec un pas de côté, et qui ouvre sur un univers en entier. Et c'est ce qui fait qu'au début, quand j'ai été contacté par Raymond, pardon, et son épouse Claudine, quand
ils
m'ont proposé ça...
Oui, parce que ce sont eux qui sont venus vers vous.
Oui, et au début, j'étais un peu réfractaire, parce que je me suis dit, encore un projet où on va appeler un Algérien à commenter l'histoire franco-algérienne de la guerre, et je ne voulais pas de ça, je ne suis pas dans le commémoratif, ni un... Mais quelqu'un qui est dans le culte du souvenir. Moi, je suis un homme du présent. Si l'on existe, je suis un prophète du présent. Et donc, à partir de la rencontre avec Raymond, avec sa personne, avec ce qu'il est, avec sa sensibilité, avec son indépendance, avec sa ruralité aussi, qui ont fait que les choses se sont déclenchées, elles sont venues, elles sont là. Donc, la ville, en ceci, je me rapproche beaucoup de Raymond. La ville, c'est un lieu fascinant, c'est un lieu d'épuisement. Et on a l'impression, injustement, que c'est un lieu de trahison de soi-même, de son appartenance.
J'ai consulté les articles et les éditoriaux que vous avez écrits au moment de la naissance du Irak. J'ai pu constater qu'au début, Kamel, vous étiez très heureux. Vous approuviez ce qui est en train de se passer avec cette jeunesse algérienne. Et vous dites même qu'avec votre femme, vous avez été manifesté. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps qui s'écoule... Eh bien, on a l'impression que vous êtes dans l'expectative, voire peut-être dans l'interrogation de ce qui ne s'est pas encore passé aujourd'hui en Algérie.
L'interrogation, elle est légitime. Il faut s'interroger en permanence. C'est un droit. Ce qui est malheureux pour le monde, ce ne sont pas les questions, ce sont les réponses qui tuent. C'est ça ce qui est malheureux. S'interroger, c'est une preuve de vie et c'est une preuve d'exigence. Le soulèvement en Algérie, je l'ai attendu toute ma vie. Je l'ai espéré, je l'ai vécu intensément, j'en ai pleuré. Mais après, il fallait que ce soulèvement serve à quelque chose, serve à un moment politique, serve à construire un pays, à négocier entre les partis qui sont en concurrence pour le pouvoir, serve à fonder le présent. Et qu'il ne serve pas, à être pris en otage par des activistes, par des suprématistes, par le régime lui-même, par des arrière-gardes, par des avant-gardes. Je pense que le soulèvement était mûr, l'immaturité elle est venue après. Parce que après le soulèvement, comme partout dans le monde, il y a risque de prise en otage par les radicalités et par les futilités, ce qui est encore plus grave. Et donc je pense qu'au bout de 3 mois, il fallait aller vers le politique, il fallait aller vers la proposition, la construction, pas la confrontation. La confrontation, on en sort avec le label de héros, mais l'héroïsme est parfois stérile. Ce qu'il fallait en Algérie, c'est négocier, c'est concevoir, c'est proposer une alternative rassurante pour tout le monde. Et là, c'est le Kamel Daoud politique qui parle. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une déception vis-à-vis du mouvement lui-même, c'est une déception vis-à-vis des gens qui l'ont pris en otage et qui auraient pu saisir ce moment-là pour construire. Il y a eu des ruptures dans d'autres pays, en Espagne, en Amérique latine, etc. Et c'est sur la base de cette rupture qu'on a construit une transition, y compris dans des pays profondément blessés comme l'Espagne. La transition entre franquisme et la nouvelle Espagne a été quand même conçue laborieuse, douteuse même, mais elle a été là. Et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. On a une incapacité à imaginer l'avenir qui, pour moi, a été un désastre et encore un désastre. La politique, c'est le domaine de l'imaginaire. Ce n'est pas le domaine des convictions uniquement. Les convictions ne suffisent pas. Il faut les verbes, du beau verbe, de l'éloquence et de l'imagination, contrairement à ce qu'on croit. Celui qui imagine avant les autres, c'est l'homme qui va créer, de faire de la politique. Celui qui imagine refaire les choses, ça sera un réactionnaire, ça sera quelqu'un qui va vivre une épopée personnelle, mais il n'a rien à proposer. Il faut de l'imaginaire en politique. Et ça, pour le soulèvement du 22 février, ça nous a cruellement manqué. Bien sûr, on va m'opposer des raisons. Oui, le régime ne nous laisse pas nous exprimer, etc. Moi, je ne crois pas que le monde soit juste ou injuste. Le monde est ce qu'il est. Et quand on est dans un pays, on fait avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on attend.
Merci infiniment, Kamel Daoud. Je rappelle que cette exposition vient de commencer à l'Institut du Monde Arabe, qu'elle se tient jusqu'au 17 juillet 2022. Raymond Depardon, Kamel Daoud, Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019. Merci pour tous vos écrits. Et je rappelle que vos livres se trouvent en livre de poche et que c'est des coéditions avec une très belle maison d'édition algérienne qui s'appelle Barzac Édition.
Exactement.
Merci infiniment, Kamel.
Merci à vous pour vos questions.
Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami. Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Et c'est avec Jour meilleur d'Orelsan que nous allons nous quitter ce soir. Merci Kamel Daoud. Je rappelle que votre exposition avec Raymond Depardon s'intitule « Son œil dans ma main », qu'elle vient de commencer à l'Institut du Monde Arabe et qu'elle dure jusqu'au 17 juillet prochain. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Marie Clément. Et merci à Lilian Alhomme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.